Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Travail à la Carte, qui explore les différentes façons de travailler. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous donner des pistes d'inspiration et de réflexion. Je suis Svetlana Baranov et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Luc Breton. Luc est le président de Purpose for Good, organisateur de l'événement The Next Gen Enterprise Summit et président du think tank Institut G9+. Il a aussi coécrit le livre « L'entreprise nouvelle génération » aux éditions Erol. Bienvenue Luc.
Bonjour Svetlana.
Merci Luc d'avoir accepté mon invitation. Je voulais bien sûr parler de ton livre qui est passionnant et dans le cadre de sa rédaction, c'est assez impressionnant. Tu as été amené à rencontrer plus de 250 managers, 200 entreprises dans plus de 30 pays, une enquête très riche durant laquelle tu t'es intéressé aux nouvelles façons de travailler. Déjà peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche ?
Alors merci de m'inviter. Alors j'ai réalisé ce travail avec mes deux co-auteurs, hein, Philippe Pinault, le président de Hola Spirit, et puis Olivier Tranois, qui est un juriste. C'est un travail finalement pour lequel nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons eu la possibilité de faire ce tour du monde avant que la pandémie ne se déclare. Et donc, ça nous a permis de sillonner. Alors, on n'a pas fait les 30 pays physiquement, mais plus de la moitié. Et j'ai pu aller quand même sur les différents continents à la rencontre des écosystèmes d'innovateurs en termes de management. Donc, on a organisé des meet-up, des rencontres en one-to-one. Et on est allé de proche en proche en partant de la bucket list de Corporate Rebels, laquelle ensuite on a élargi. Jusqu'à rencontrer, oui, 250 personnes pour faire le livre, et puis depuis bien plus, et à établir une base de données très large des organisations qui ont adopté des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles formes d'agilité à l'échelle et d'organisations centrées sur la raison d'être.
Et justement, pourquoi on a besoin de mettre en place aujourd'hui de nouvelles façons de travailler, de nouvelles formes de gouvernance ? Parce que après tout, on a fonctionné comme ça pendant plusieurs décennies, donc pourquoi changer maintenant ?
On change parce que le modèle est à bout de souffle, puisque en fait, ce qui a créé le capitalisme que l'on a connu dans notre enfance, c'est un mode de fonctionnement de masse qui créait une production et qui était focalisée sur la productivité de série, de masse, une production en général industrielle, y compris d'ailleurs sur les services, une approche très industrielle des choses. Et aujourd'hui, on rentre dans le monde du sur-mesure. Chacun achète quelque chose qui est parfaitement adapté à son besoin et pas celui du voisin. Et ça peut prendre des formes très variées. Par ailleurs, l'environnement concurrentiel évolue de manière extrêmement brutale sous l'impact de l'innovation qui est devenue mondiale aujourd'hui. Et puis tout ça est finalement produit par la révolution industrielle que nous connaissons aujourd'hui, qui est celle de l'Internet, qui a rendu l'information accessible à tous. Autrefois, le pouvoir était lié à la détention de l'information. Aujourd'hui, l'information est abondante, accessible à celui qui veut bien la chercher. Et donc, détenir l'information et être un point de coupure dans l'organisation de ce fait est devenu un anachronisme. Et puis, la hiérarchie de pouvoir individuel, souvent liée à cette détention d'information, est devenue elle aussi anachronique. Elle crée des bureaucraties dans des organisations qui, au fur et à mesure qu'elles grandissent, empilent les couches hiérarchiques. Et finalement, on voit que les entreprises les plus efficaces au monde, souvent issues du monde de l'informatique et des nouvelles technologies, elles n'ont pas tant que ça de niveau hiérarchique, elles sont assez plates, elles sont organisées par équipe. Et c'est plutôt une hiérarchie d'équipe qui s'impose plutôt qu'une hiérarchie individuelle, de pouvoir individuel. Et donc, pourquoi les entreprises changent leur gouvernance ? Pour trois raisons essentielles. La première, c'est pour être opérationnellement beaucoup plus efficace, mettre cette efficacité, deuxièmement, au sujet d'une raison d'être qui a un impact positif sur la société et l'environnement. Aujourd'hui, il y a des graves problèmes sociaux et d'environnement. Et puis, la troisième chose, c'est retenir les talents, puisqu'aujourd'hui, en fait, comme le village est devenu mondial et les économies, les organes économiques sont mondiaux, ils se battent pour les mêmes talents.
Donc c'est quelque part une notion de survie pour les entreprises de changer de mode d'organisation et de travail ?
C'est une notion de survie, mais aussi d'alignement face aux enjeux de la planète actuelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai décidé d'appeler mon organisation Purpose for Good, parce que je pense qu'aujourd'hui les organisations qui ne vont pas être tendues vers l'amélioration de la société ou de l'environnement, vont avoir un problème de projet. Et en ayant ce problème de projet, vont avoir un problème de recrutement ou de rétention. Et donc, tout est lié. Et c'est pour ça que je dis que les meilleures organisations ont tout pour elles, puisqu'elles attirent les personnes, les talents les plus rares pour faire les meilleurs projets et pour avoir le meilleur impact sur l'environnement, sur la société. Et donc, tout ça est extrêmement cohérent. Et c'est pour ça que l'entreprise nouvelle génération, The Next Gen Enterprise, c'est le terme qu'on a choisi avec mes co-auteurs, pour à la fois le livre et l'événement qu'on fait annuellement sur Paris, parce qu'on pense que ces sociétés-là sont en train de réinventer le capitalisme, ils sont en train de réinventer l'engagement social, et finalement la distinction entre profit et non-profit n'est plus tellement le sujet aujourd'hui, parce qu'on peut faire, on peut être profit avec un impact très fort, ou non-profit, ce qui compte c'est quel est le projet et qui achète ce projet, qu'on soit salarié, qu'on soit partenaire, qu'on soit une des parties prenantes de ce projet.
Et justement, dans tous les modèles que vous avez vus, est-ce qu'il en existe un en particulier qui sort du lot, qui serait, j'allais dire, la solution à tous les problèmes ?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est un mythe. Le mythe du marketing à l'américaine, c'est de dire, voilà, les dix règles ou la méthode en dix points qui va vous permettre de devenir à la fois efficace, d'avoir un projet génial et d'attirer les talents. Ben non, ça marche pas comme ça. Ce serait très simple et puis à la fois finalement assez triste. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est de s'inspirer de modèles et de trouver le sien. Et donc, s'inspirer de modèles, bah, on en a décrit dans la troisième de couverture du livre toute une série. Hein. Ça ressemble un peu à la Voie lactée. Donc, dedans, évidemment, on trouve le self-management, la sociocratie, l'holacratie, les teal organizations, les organic organizations, les iquasi. Il y en a beaucoup et j'ai rédigé les principaux en 40 pages. Alors, c'est pas dans le livre, c'est j'ai mis ça sur Internet, mais il y a beaucoup de framework ou de méthodes qui reposent sur les mêmes principes qui sont avoir donc cette raison d'être très forte, des valeurs qui sont vécues et qui sous-tendent cette raison d'être, qui la nourrissent. Et puis ensuite, beaucoup d'autonomie, de responsabilité, de transparence et de management par la confiance. Et si on arrive à mettre en place tout ceci, on développe une dynamique d'intrapreneuriat ou d'entrepreneur au sein des organisations, et ça change tout, parce que les personnes qui le matin sont à l'attaque parce qu'elles sont redevables non plus vis-à-vis d'un chef qui lui-même est redevable vis-à-vis d'un autre chef et d'un surchef et d'un sur-surchef, mais des gens qui sont tous redevables vis-à-vis de leur équipe d'abord, qui est pluridisciplinaire, elle-même redevable vis-à-vis d'autres équipes cellulaires, ça révèle un engagement beaucoup plus fort en fait, est beaucoup plus collectif, beaucoup plus transverse que précédemment. Et donc, cet engagement vis-à-vis de ses pairs, c'est quelque chose qui fait que le matin, on a envie d'y aller. On a envie d'être exemplaire vis-à-vis de tous ceux avec qui on travaille et pas uniquement d'un chef. Le chef étant plutôt transformé en leader qui vient supporter cette équipe pluridisciplinaire et lui permettre de s'exprimer. Sachant que si chacun dans son rôle a une marge de manœuvre maximale, et qu'il est redevable de ça vis-à-vis des autres, on a une efficacité opérationnelle qui permet l'expression d'une intelligence collective sans commune mesure avec la pyramide hiérarchique traditionnelle. Donc, Emile Servan-Schreiber, dans son bouquin Super Collectif, explique ça très bien. Si vous arrivez à faire exprimer cette intelligence collective, encore une fois, de façon cellulaire, vous allez passer d'un rendement, entre guillemets, ou d'une productivité de l'intelligence qui aujourd'hui, c'est moi qui le dis, est plutôt à 30 ou 40% des capacités des gens, vous allez pouvoir vous approcher de 60, 70% très rapidement. Et ça, ça génère un bien-être au travail de ceux qui sont très engagés et puis une efficacité pour le collectif qui est juste admirable.
Alors, je suis entièrement d'accord qu'implémenter un modèle tout fait, ça ne fonctionne pas très bien. C'est ce que je retiens de mon expérience de consultante. Et alors, je connaissais un peu ta réponse sur le fait qu'il n'y ait pas de modèle universel. Et donc, ce que je te propose, c'est d'explorer plutôt donc, quelques aspects qui peuvent être en commun à tous les modèles que tu as vus. Et en commençant peut-être par quelque chose que tu as déjà évoqué, la raison d'être. Et donc, c'est quoi la raison d'être et pourquoi c'est important ?
La raison d'être, c'est déjà la première façon d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait. c'est le why. Pourquoi cette organisation réalise un chiffre d'affaires, un résultat net, pourquoi elle emploie des gens, quel est l'objectif, quelle est la mission. Hein, donc en France, on parle d'entreprise à mission désormais avec la loi Pacte. Et puis d'autres standards américains comme B Corp insistent beaucoup sur cette raison d'être. Donc la raison d'être, c'est l'objectif qui nous fédère, l'impact que l'on veut avoir sur la société, l'environnement, et qui va permettre d'expliquer ce que l'on fait au plus grand nombre. Si cette raison d'être est un faux semblant, on va parler de purpose washing, donc on va travestir la réalité. Mais ça, à l'époque d'Internet, quand vous commencez à mentir, les choses se savent très vite. Et finalement, vous vous prenez assez rapidement le boomerang dans la tête. Et donc, toutes les entreprises, je dirais, traditionnelles, qui racontent un peu des histoires sur leur raison d'être et qui ont juste travaillé la raison d'être comme un sujet de communication, à mon avis, vont le payer très très cher, hein, parce qu'on ne rigole pas avec la raison d'être. Il doit y avoir une sincérité totale dans cette raison d'être. Elle doit être partagée par tous, connue de tous et vécue par tous. Et elle va s'exprimer dans toutes les pores de l'entreprise et dans les valeurs de l'entreprise. Donc si les valeurs qui sont vécues dans l'entreprise sont à l'opposé de la raison d'être, vous êtes mort. Dans l'autre sens, si la raison d'être est véritablement mise en œuvre, c'est un carburant à la fois aspirationnel, inspirationnel, absolument génial pour mettre en mouvement les individus au service de cette œuvre collective qui dépasse chacun d'entre nous largement, qui est une forme d'idéal, mais qui va impacter le réel. Et aujourd'hui, on voit bien, hein, ceux qui sont le plus à même d'impacter le réel, ce sont plus tellement le politique, hein, on le voit quand même mal en point, et plus les organisations, profit ou non-profit, enfin, à but lucratif ou pas. Et donc, faire partie d'un collectif qui a une raison d'être, qui inspire, qui va changer le réel, c'est formidable. Et ça permet, vous n'avez plus besoin de motiver les gens avec des carottes, avec des parts variables, avec des systèmes de sanctions ou de bonus, de malus. Tout ça, vous pouvez le mettre à la benne, parce que finalement, quand les gens s'engagent dans un projet avec passion, ils en font beaucoup plus que ce que vous pourrez jamais obtenir par des incentives artificielles, entre guillemets.
Et concrètement, comment je fais pour que cette raison d'être signifie quelque chose pour moi en tant que salarié et que ça ne soit pas juste un autre label que l'entreprise va aller obtenir ?
Et ben c'est le baptême du feu, c'est-à-dire que est-ce que le projet de l'entreprise il est compréhensible par tous ? Est-ce que les gens peuvent se reconnaître dedans ? Est-ce qu'ils ont envie d'y participer ? C'est vraiment le point. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui qui se créent, elle se crée pour beaucoup sur la base d'un projet qui est largement ancré dans une raison d'être très innovante, parfois disruptive, sur des sujets traditionnels. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous vendez, par exemple, de l'alimentation ou des vêtements, vous avez 50 façons de le faire. Mais vendre une alimentation qui respecte un certain nombre d'engagement pour la planète, pour ceux qui vont ingérer ces aliments et pour et l'impact sur la santé, sur l'agriculture et sur la planète. Ben on voit bien que il y a des centaines de manières de faire cela de manière plus ou moins profitable pour toutes les parties que je viens de citer. C'est pareil pour des vêtements, mais c'est pareil pour des services, et c'est pareil pour du software, pour toutes les activités humaines. Voilà, est-ce que le produit que j'achète fait appel à un moment donné à des enfants dans des pays du tiers-monde qui vont être payés au lance-pierre ? Est-ce que l'agriculture intensive qui va saccager les sols va être utilisée ? Est-ce qu'au final, il y a une mise en danger d'un écosystème ou de la vie de certaines personnes dans un cycle économique ? Tout ça, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on peut le savoir. Et ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Et ils ne souhaitent plus participer à des projets qu'ils ne comprennent pas. Et donc, s'il est déjà le projet n'est pas compréhensible, ou si la raison d'être est éthérée ou en lévitation au-dessus de la réalité, il n'y a aucune chance que les gens s'engagent dans des projets comme ça, sauf s'ils n'ont pas le choix, hein, ce qui peut toujours arriver. Mais dans un marché du travail tendu, où les talents peuvent se déplacer facilement, fluide, hein, un marché du travail fluide, ce sont les vrais projets transparents, sincères, qui ne mentent pas, qui vont gagner. Et ceux qui mentent vont pas pouvoir mentir très longtemps, parce qu'aujourd'hui, tout finit toujours par se savoir et de plus en plus vite.
Alors, tu me facilites la transition parce que j'allais parler de justement de la transparence. Et donc, dans ton livre, tu parles de la transparence à tous les étages dans l'entreprise nouvelle génération. Qu'est-ce que tu entends par là ?
On l'a dit sur la raison d'être. On pourrait aussi le dire sur les salaires. Je crois qu'il est tout à fait inadmissible. Alors, moi, je suis un libéral de confession économique, que tout le monde se détende tout de suite. Donc, j'ai aucun problème avec l'économie de marché. Je trouve qu'elle a émancipé les peuples largement. Donc, moi, mon sujet n'est pas tellement sur remettre en cause le capitalisme. Mon sujet est plutôt de dire la transparence, c'est par exemple concevoir que si le delta de salaire entre le PDG d'une entreprise et puis la personne la moins qualifiée de l'organisation ou la moins payée de l'entreprise est avec des facteurs qui dépassent des chiffres à plus de 2 digits ou 3 digits après la première unité, on marche sur la tête. J'avais calculé en faisant une conférence avec l'Institut G9+, que dans toute une série d'entreprises, entre le salaire du PDG et le salaire de l'ouvrier, il aurait fallu à l'ouvrier travailler depuis l'âge des pyramides jusqu'à aujourd'hui pour gagner la même chose en une vie. Donc c'est totalement insensé, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de... Et donc, voilà, un minimum de transparence, c'est un minimum de transparence sur la raison d'être. On est là pour faire quoi ? Qui fait quoi dans l'organisation, aussi si ça n'est pas sur la totalité des salaires, en tout cas sur la répartition des richesses créées un minimum. Et puis de manière très opérationnelle et très quotidienne, c'est qui fait quoi en permanence et qui est en charge de quoi. Et une fois qu'une personne est en charge d'un rôle, donc un de mes co-auteurs, donc Philippe Pinault, est patron de La Spirit, qui est un software as a service qui permet de décrire une organisation par cercle et rôle. Ça permet, c'est un logiciel qui est leader mondial dans ce domaine-là et qui permet clairement de mettre de la transparence sur tout ce que fait l'entreprise et sur le qui fait quoi. Et une fois que vous avez fait ça, dans une entreprise hiérarchique traditionnelle, quand vous regardez l'intranet, vous voyez pas les jeux de pouvoir et c'est eux qui drive, qui régulent les jeux de l'entreprise. Sur La Spirit, vous décrivez vos cercles, vous décrivez les cercles qui composent eux-mêmes les cercles, qui sont des rôles plus précis. Et puis, ces rôles sont ensuite pris en charge par des individus. Et un individu, il a développé des compétences à la fois dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine de l'association, de l'associatif. Il peut avoir développé aussi des compétences dans sa famille, tout simplement. Et donc, toutes ces compétences, elles peuvent contribuer à des rôles qui se trouvent dans ces cercles qui constituent l'organisation. Et donc, le fait de décrire ça et de voir évoluer ceci quotidiennement, comme je disais récemment, on pourrait faire un time-lapse, une photo quotidienne de l'organisation sur La Spirit et de voir cette time-lapse et donc cette organisation évoluer, les cercles se subdiviser au fur et à mesure qu'ils grandissent de façon très cellulaire, comme ça se passe dans un corps vivant. Eh bien, ça permettrait de voir l'entreprise évoluer, les rôles se spécialiser ou au contraire se reconcentrer. Et cette description, qui est à un instant T fidèle de ce qui se passe exactement dans l'organisation, elle met de la transparence à tous les étages. Alors ça, c'est le modèle de l'entreprise nouvelle génération. Et je veux bien comprendre que ça puisse gêner des gens qui ont toujours finalement profité d'un certain malentendu ou d'un certain non-dit dans l'organisation.
Alors on est passé de la transparence à l'organisation. Donc, si je résume, ce que tu dis, c'est qu'on passerait d'une organisation pyramidale, donc hiérarchique, à une organisation en cercle. Et dans chaque cercle, il y a des personnes qui ont un rôle. Est-ce que c'est bien ça ?
Alors, dans chaque cercle, il y a des rôles, et ces rôles sont pris en charge pour tout ou partie par des personnes. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui prennent en charge ou énergisent, pour reprendre le terme consacré, un rôle particulier, voilà. Et donc le fait de décrire son organisation de la sorte, finalement, c'est un nouvel operating système d'exploitation, des organisations. Ce qui fait que, j'avais dit pour bien marquer les esprits, si toute l'entreprise est dans un avion et que l'avion se crache, avec cette description des cercles, des rôles et des compétences en face des rôles, on est capable de redémarrer l'entreprise avec de nouvelles personnes en allant recruter les talents nécessaires à redémarrer l'organisation, mais elle est capable, modulo ses recrutements, de redémarrer assez rapidement et d'être efficace assez rapidement. Donc cette capacité à décrire de façon précise l'organisation par une hiérarchie toujours, donc tous ceux qui expliquent que les entreprises de nouvelle génération seraient ce serait le bazar, il n'y aurait plus de hiérarchie, il n'y aurait plus de management. Tout ça, c'est du bullshit, en fait. Hein. Et donc, bien sûr, il y a toujours une hiérarchie, c'est une hiérarchie d'équipe, puis une hiérarchie de subordination individuelle. Il y a toujours du management, mais au lieu d'être en coupure, il est en soutien. Donc, c'est plutôt du leadership qu'on développe, hein, et de l'entrepreneuriat. Et puis, par contre, il n'y a plus de fiches de poste. Oui, ça, c'est très clair, parce que les fiches de poste, totalement has-been. D'ailleurs, les fiches de poste sont autant has-been que les réorganisations dans les entreprises classiques, puisque les réorganisations, le jour où elles sont pensées, elles sont déjà, le temps qu'on les mette en œuvre, elles sont obsolètes. Et puis, les fiches de poste, c'est pareil. Parce que tout ça vit, en fait. Hein, et donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain et beaucoup plus agile de se calquer sur la vie réelle de l'organisation. Et si vous voulez que l'organisation se déforme, se transforme très rapidement, ce qui est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, il faut permettre à chacun dans l'organisation de proposer ces transformations et ces modifications. Voilà, donc cette capacité du corps social à faire des propositions d'amélioration de l'organisation à tous les niveaux de l'organisation, c'est ça qui est phénoménal et qui change le rythme. C'est-à-dire que l'entreprise, tous les jours, elle change, sans que le patron en soit même au courant, parce que juste, il est moins compétent que les personnes qui sont dans ses équipes en charge de certains domaines pour décider. Et donc, c'est aussi un lâcher-prise qui est appelé dans ces nouvelles formes d'organisation. Et donc, cette capacité du collectif à décider au bon niveau de ce qu'il faut faire permet à l'organisation de se transformer comme un banc de poissons immédiatement, et donc en tout cas de façon beaucoup plus rapide et efficace qu'une entreprise sur la bonne vieille pyramide hiérarchique de la Légion romaine.
Donc dans ce que tu dis, je m'imagine une organisation très changeante. Ça me fait penser un peu au mercato, au football, où les joueurs, donc chaque saison, changent d'équipe. Donc, ce serait plutôt les salariés qui changeraient de cercle à l'issue d'un certain laps de temps. Et ça me fait penser aussi un peu au terme de spin-off qu'on utilise soit pour des séries télé ou des startups. Et l'idée, ce serait qu'il y a des salariés qui pourraient se mobiliser en fait pour créer de nouveaux cercles parce qu'ils ont identifié de nouveaux besoins.
Ça se transforme très rapidement, mais ça se transforme avec cohérence. Et donc probablement qu'à ce moment de notre entretien, il est intéressant d'introduire une notion qui permet l'alignement. Alors moi, il y a une méthode notamment, alors il se trouve qu'elle a été inventée par Google, hein, donc je leur reconnais ça, c'est quand même une méthode à la fois extrêmement robuste et ultra simple, qui s'appelle les OKR, Objective and Key Results, qui permet, en partant de la raison d'être, de décliner cette raison d'être sur tous les cercles de l'organisation, tous les rôles, et de s'assurer qu'il y a un alignement des forces vives de l'organisation sur ces... Alors, OKR, ça veut dire Objective and Key Result, donc les objectifs stratégiques et les résultats clés de l'organisation. Donc, c'est s'assurer que 100% des forces vitales de l'organisation sont bien focalisées sur les priorités de l'organisation. Pourquoi ? C'est pas par souci de vérifier que les gens sont bien sur les sujets. C'est juste parce que si on s'est réuni l'organisation, hein, qu'on fait ce qu'on a dit au tout début de cet échange, c'est pour mettre en œuvre une raison d'être et pour rien d'autre en fait. Parce que si on a un autre projet, on fait un autre projet avec une autre raison d'être. Et donc si on est partie prenante de ce projet avec cette raison d'être, ben, il faut s'assurer que cette raison d'être, elle est bien déclinée sur tous les cercles et les rôles et que tous les cercles et les rôles investissent 100% ou presque de leur force, de leur équivalent temps plein, dans la réalisation de la raison d'être. Et donc, on va s'assurer, grâce à cette méthode, que on peut faire ça sur Hola Spirit avec une carte de chaleur, par exemple. Donc, vérifier combien de TP travaillent à la réalisation de tel OKR. Et on va s'assurer que donc tous les cercles convergent bien à réaliser des objectifs et des résultats clés qui, sous forme de contribution, en fait, vont bien réaliser la raison d'être. Et si c'est pas le cas, on va s'en apercevoir tout de suite comme le nez au milieu de la figure et on va être capable de le modifier encore une fois. Pourquoi ? Parce que le contrat, encore une fois, de l'organisation, c'est bien de réaliser le projet, la mission et la raison d'être.
C'est très intéressant, merci. Alors, on a parlé de l'organisation et on n'a pas encore vraiment abordé la notion de gouvernance et de management. Et notamment dans ton livre, tu parles de self-organisation et de self-management. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie, s'il te plaît ?
Oui, le terme le plus orthodoxe est self-organisation. Et donc, self-organisation, c'est la capacité des cercles à décider pour eux-mêmes de ce qui est le mieux pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Et donc, les personnes qui énergisent les rôles dans ces cercles vont être à la manœuvre lors de réunions de gouvernance qui peuvent être, dont les décisions peuvent être prises sous le mode de consentement. En général, c'est le cas. On parle aussi de décisions intégratives qui, à la mode d'un parlement, vont intégrer les objections. On pourrait apparenter les objections à des amendements par rapport à une proposition de loi. Bref, la méthode du consentement, pour parler de celle-là, mais il y en a plein. J'ai rédigé sur Harvard Business Review un article qui s'appelle « Décider, comment décider ?» avec toutes les principales méthodes de prise de décision. Il y en a une foultitude. Mais donc, le consentement est probablement celle qui permet à tout le monde d'avoir une voix dans la prise de décision et en même temps de ne pas attendre le consensus, qui est un mode de décision qui est très lent et qui souvent nous font passer à côté de la vélocité nécessaire dans le monde dans lequel on vit pour se déplacer vite et être efficace. Et puis moi, j'aime bien dire aussi, de manière un peu provocatrice, je le reconnais, qu'il vaut mieux une mauvaise décision rapide qu'une bonne trop lente. Donc souvent, avec le consentement, on est dans une bonne trop lente. Là où, avec le consentement, on est dans une bonne rapide et fait en sorte que, bien, on consulte les personnes qui sont pertinentes pour prendre la décision, on écoute tout le monde, on intègre les objections. Et une fois qu'on a quelque chose qui ne semble plus poser d'objections majeures, les anglo-saxons parlent de « safe enough to try », c'est suffisamment bon pour être mis en œuvre, on ne voit pas de danger excessif à mettre en œuvre, eh bien on met en œuvre. Et ça, c'est génial parce que n'importe qui dans l'organisation, avec le « safe enough to try », peut proposer des modifications, des améliorations, dans son périmètre de responsabilité. Hein. Chacun en restant dans son domaine d'expertise et dans son domaine de responsabilité, on peut faire évoluer l'organisation sans validation de la hiérarchie tout en haut. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et ça fait dire à certaines personnes dans le livre, si tu te souviens ta lecture, qu'ils ont pris plus de décisions en 3 mois que la méthode par consentement qu'en 3 ans précédemment. Donc c'est extrêmement efficace.
Alors j'en profite pour clarifier un point, car on entend beaucoup parler de l'entreprise libérée aujourd'hui. Et en préparant ce podcast, j'ai souvent eu la question, c'est la question qui est revenue le plus souvent, mais c'est quoi une entreprise libérée ?
Ben, c'est pas tellement l'entreprise qu'on va libérer, c'est plutôt les gens qui sont dedans pour leur permettre de libérer leur potentiel, de libérer leur capacité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilisait probablement les capacités cognitives, l'intelligence des personnes qui sont dans les organisations traditionnelles à 30 ou 40%. Eh bien, je pense que ces nouveaux modes d'organisation peuvent permettre de libérer le potentiel des personnes que l'on fait travailler ensemble et de passer de 30 à 40% à plutôt 60, 70, voire 80% ou plus. C'est ça qu'on libère, en fait. C'est le potentiel de créativité, d'expression, d'entrepreneuriat, d'initiative, d'intelligence des gens qui n'ont pas attendu de se trouver dans une organisation pour résoudre des problèmes. Ils en résolvent tous les jours, dans leur famille, dans leurs associations, dans leurs activités personnelles, et ils aimeraient pouvoir faire la même chose dans leur job. Et c'est pour ça qu'en France en particulier, où les entreprises sont très jacobines, très centralisées, très verticales, très pyramidales, on est probablement les champions du monde de l'activité associative. Moi, ma conviction intime personnelle, c'est que les gens vont faire en association, vont libérer en association la frustration qu'ils ont accumulée au travail, où on leur explique du matin au soir ce qu'ils doivent faire et surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est totalement pénible. Parce que ces gens-là, comme tous les humains, ont un cerveau et ne peuvent pas l'utiliser correctement.
Donc les modes de management changent. Et le manager, alors, il devient quoi ? Il est encore là ? Et comment il doit changer ?
Il est là pour très longtemps. Simplement, manager est un terme équestre qui vient du français, qui veut dire faire marcher un cheval au trot dans un corral. Et donc on peut espérer mieux du management au XXIe siècle. Et donc le mieux, c'est plutôt de partir du principe que les gens ont des capacités intellectuelles très peu exploitées, insuffisamment exploitées, ont des capacités d'initiative, de créativité, comme je l'ai dit, et donc de positionner le manager non plus comme quelqu'un qui donne une partition à réciter ou à exécuter, mais comme quelqu'un qui va poser des problématiques à ses équipes et que les équipes vont résoudre. avec cette pluridisciplinarité qui est nécessaire aujourd'hui à résoudre des problèmes complexes. Certains vont être bons en design, d'autres vont être bons en produit, d'autres bons en marketing, d'autres en finance, d'autres... Et tout ça est nécessaire aujourd'hui pour résoudre des problèmes complexes. La pandémie a été un problème complexe. On a bien vu à quel point les États, avec leur verticalité, leur lenteur, ont été totalement incapables d'appréhender la complexité de cette crise. Ils ont été totalement dépassés. Et les pays où ça a été plutôt mieux géré qu'ailleurs, c'est des pays où la délégation, la subsidiarité, la capacité à faire fonctionner le local plutôt que le central a fait la différence.
Et comment dans ces entreprises nouvelle génération, on fait confiance ? Parce qu'on a déjà vu qu'avec le télétravail, j'allais dire pour les managers anciennes générations, c'est quelque chose qui n'a pas été très évident d'arriver à faire confiance à ces équipes.
Ben, je pense que beaucoup de managers traditionnels ont découvert avec le télétravail que d'une part, le télétravail, c'était possible, que d'autre part, c'était possible immédiatement, que tertio, ça décuplait la productivité. Et que, honnêtement, les managers qui racontent pas des fadaises se sont aperçus que leur crainte de voir les gens télétravailler était totalement ridicule. J'interviewais dernièrement Agathe Vautier de The Galion Project, qui fédère les patrons des scale-up en France, des entreprises en hypercroissance, qui représentent aussi une vue de ces entreprises de nouvelle génération. Elle disait, voilà, là, définitivement, l'équilibre entre le télétravail et le travail a changé, c'est définitif, et on va probablement être moins au bureau, en tout cas pas 5 jours sur 5, on va panacher, et de fait, on va essayer de rendre l'expérience collective, c'est-à-dire le moment où on va se rencontrer, plus marquante, plus efficace et plus tournée sur l'expression de l'intelligence collective qu'avant. Avant, moi, j'ai vécu ça aussi dans mon expérience personnelle, hein. On venait au bureau pour montrer aux autres qu'on était là. Donc, je pense que demain, on aura peut-être moins de bureaux, mais lorsqu'on y sera, on y sera pour vivre une expérience, alors déjà pour se rencontrer, pour échanger, alors des moments informels probablement plus nombreux, plus intenses, avec des expériences peut-être plus ludiques, plus sympas, un peu moins focus sur la productivité lorsqu'on est au bureau, et puis des moments de créativité ensemble plus intenses, avec les outils qui vont bien, c'est-à-dire des salles adaptées, des espaces adaptés, qui ressemble moins à la préfecture des années 70 avec chacun dans son bureau et son nom sur sa porte, mais plus des espaces mis en scène, entre guillemets, par des professionnels des nouvelles formes d'espaces de travail et qui permettent de travailler ensemble.
Alors maintenant que tu nous as un peu fait rêver, comment on fait pour se transformer vers ces nouveaux modèles ?
Alors, comment on fait pour se transformer ? Ben, on commence par le commencement, c'est-à-dire travailler sur ses valeurs et sa raison d'être. C'est le départ de tout, en fait, hein. Donc, on revient au début de notre entretien. Je crois qu'une organisation collective qui ne partage pas ses valeurs et qui ne les connaît pas et qui n'a pas bien défini son projet, sa mission collective, elle va pas très loin ou elle va pas très loin efficacement, en tout cas. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, on peut essayer d'adopter des méthodes plus agiles qui permettent de rentrer moins dans des tunnels de réalisation, mais plus d'itérer avec ses parties prenantes, à commencer par ses clients, et donc commencer à se mettre dans un mode d'agilité, à condition qu'en termes de mindset, de culture, pour ça que je commence par les valeurs et la raison d'être, on ait déjà en soi-même fait son changement et qu'on ait la volonté de changer. Moi, ce que je recommande honnêtement, Svetlana, moi je le dis sans embâge, moi je recommande aux entreprises traditionnelles qui ne veulent pas bouger dans leur culture et dans leur certitude de surtout ne rien changer. Voilà. Vous voulez pas bouger, mais surtout ne changez rien. Et puis le dernier éteindra la lumière en bonne santé. Voilà. Ça s'appelle la peau de chagrin et ça se passera très bien comme ça et ils seront heureux jusqu'au bout et puis un jour l'entreprise s'éteindra. Parce que c'est comme ça que ça doit se terminer. Et donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain d'organisations qui vont rester, entre guillemets, dans leur jus, qui a fait leur époque de gloire à un moment donné, jusqu'au bout et ça fonctionnera très bien comme ça. Par contre, pour celles qui veulent vraiment bouger, il faut qu'elles en soient convaincues, à commencer par les dirigeants. Hein. Je pense que si les dirigeants ne sont pas convaincus, c'est même pas la peine de commencer. Ou alors, si les dirigeants ne sont pas convaincus, mais qu'ils permettent à d'autres managers, peut-être pas au niveau de la direction, mais juste après, de le faire en leur donnant carte blanche, c'est une autre façon de procéder. C'est-à-dire, moi, je suis pas convaincu, mais je vais donner la mission à certains leaders dans mes équipes de le faire, qui eux en sont convaincus. Ça peut fonctionner. Et puis une fois qu'on est convaincu et qu'on se met en déséquilibre, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Et donc on commence par la raison d'être, les valeurs. Ensuite, on va travailler l'agilité. On va se faire coacher pour faire ça, parce que c'est quand on l'a jamais fait, c'est pas parce qu'on dit qu'on le fait qu'on le fait. Il faut se faire coacher, il faut avoir ce miroir extérieur de gens qui ont eu cette expérience. Et puis, le faire du jour au lendemain me semble suicidaire. Donc, je pense qu'il faut le faire petit à petit, de proche en proche. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, qui disent c'est le Big Bang, du jour au lendemain, on passe de la nuit au jour. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai expérimenté en tant que manager dans une grande organisation chez Orange, pour pas la citer, de le faire progressivement avec un certain nombre de champions dans l'organisation, de leaders d'opinion qui sont plus convaincus que les autres, qui vont y aller, qui vont réussir. Ils vont aussi se prendre les pieds dans le tapis, ils vont trébucher, ils vont faire des erreurs, mais à la fin, ils vont y arriver. Les gens qui vont l'avoir fait avec eux vont avoir une fierté, une estime d'eux incroyable, vont propager ça dans le reste de l'organisation, et à partir du moment où plus de 20% de l'organisation a basculé, les autres ne savent pas que le jeu est déjà gagné, mais il est gagné, et donc l'entreprise va basculer totalement. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tout ça n'est pas mathématique, même si il y a probablement des lois qui régissent ces changements humains. Ça va prendre un certain temps, mais au final, toute l'organisation va basculer. Et donc voilà, il faut s'engager résolument, il faut être convaincu, et si vous n'êtes pas convaincu, surtout ne changez rien.
Et est-ce que ce sont des modèles que l'on peut implémenter, quelle que soit l'industrie, le secteur et le métier?
Oui, tout à fait, ça fonctionne. Alors, avec Olivier et Philippe, on a rencontré et interviewé des gens dans le monde entier, de toute taille, les organisations de toute taille, dans absolument tous les secteurs de l'activité. On a vu des échecs dans tous ces cas de figure, et on a vu des grandes réussites dans tous ces cas de figure. Et donc, non, c'est pas simple, non, c'est pas linéaire, c'est pas gagné d'avance, il ne suffit pas de démouler une méthode pour réussir. Il faut beaucoup de conviction, il faut beaucoup d'efforts, il faut assumer d'échouer pour réussir un peu plus tard. Ça n'est pas un long fleuve tranquille et ça n'est pas garanti sur facture. Voilà, mais à part ça, personnellement en tout cas, c'est ma conviction très profonde et absolue. Si les entreprises veulent survivre et dépasser leur lifetime value, hein, leur durée de vie, et la valeur qu'elles ont sur un modèle ancien, il est absolument nécessaire qu'elles se transforment et qu'elles évoluent, sinon elles disparaîtront. Et la réalité des chiffres, cette fois-ci, montre que la durée de vie des entreprises se raccourcit de plus en plus. Il est de plus en plus difficile d'assurer la pérennité d'une organisation. Et donc, les organisations qui probablement dureront le plus longtemps et seront les plus pérennes à l'avenir sont celles qui auront avant tout cette capacité de transformation dans leur ADN avant d'avoir toute autre forme de schéma d'ADN dans l'absolu.
Pour terminer, peut-être, dans ton livre, tu décris de nombreux modèles. Est-ce que toi, tu as ton préféré ou un qui t'a marqué en particulier, un coup de cœur?
Moi, j'aime bien... j'ai adapté... holacratie et sociocratie. Et de ce point de vue-là, j'aime bien la façon dont la sociocratie 3.0 prend les choses, parce que c'est un bac à sable avec toute une série d'outils qui sont à disposition des managers. J'aime bien aussi les méthodes Scrum. Et puis, j'ai adoré mettre en place dans l'innovation le Lean Startup. Là, encore une fois, il faut faire son miel de tout ça et trouver la bonne méthode. Ensuite, ce qui est important, je pense, pour cranter les progrès et voir évoluer son organisation et mettre des preuves sur les mots, sur les pratiques et sur les rituels, c'est un support. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai assez rapidement utilisé Ola Spirit pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est devenu mon outil de travail quotidien permanent, en fait, un réseau social d'entreprise. Et puis, Ola Spirit pour encoder son organisation, la voir évoluer, la faire bouger de façon infinitésimale, chacun à son niveau, et puis y travailler ses projets, ses actions, ses meetings, ses OKR aussi, comme j'en ai parlé, et gérer son organisation de façon organique. Voilà, c'est un nouvel operating system des organisations qui me semble le prérequis à ce que tout le monde partage la même chose et à ce que tout le monde ait conscience au même moment de la même chose et voit de façon tangible son organisation de manière ultra transparente et temps réel en évolution constante.
Et on a tendance à toujours voir le modèle anglo-saxon. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises françaises qui ont implémenté ces modèles ?
Mais plein, il y en a plein le livre. Alors, j'aime beaucoup en France une entreprise qui est un peu sur les modèles que j'ai décrits. Ils sont partis du modèle de Spotify avec les ligues. Ils ont évolué vers de la sociocratie. C'est l'exemple de Octo Technologies, qui est une entreprise qui est probablement une des plus belles success stories françaises dans le conseil technologique ces dernières années. On pourrait citer, alors je peux citer quelques exemples de tailles différentes et d'industries différentes également. Je citerai par exemple Pure ETC, qui est un réseau de restauration et de restaurants qui fonctionne aussi sur ces modèles. Moi, j'ai pu expérimenter chez Orange des choses. Je sais que Avanade en France s'est aussi mis sur ces modes-là. Je citerai Apsia, toujours en France, Actinvision, Arcadie, qui fait de la distribution, EcoCompteur, Rabé Biocoop, Decathlon avec ses entrepôts, qui a adopté du self-management progressivement sur plus en plus d'entrepôts. Une autre société de conseil que Octo, qui s'appelle Womanity. Il y a eu des expérimentations aussi chez Accor, chez Michelin, chez Engie. Quasiment dans tous les grands groupes aujourd'hui, il y a des expérimentations. Ce qui est intéressant dans les PME, c'est qu'ils expérimentent pas, ils passent à l'échelle. Toute l'entreprise s'y met. Et aujourd'hui, alors j'évalue à plus de 20 000 maintenant le nombre d'organisations qui ont mis en œuvre ces modes d'organisation. Alors 20 000, c'est très peu, et en même temps, c'est beaucoup plus que quand on avait rédigé le livre déjà. Donc je pense qu'il y a un phénomène exponentiel là-dedans qui est en train de ressembler à une lame de fond assez passionnante à suivre.
Alors, on a utilisé peut-être beaucoup de gros mots dans cet épisode, donc je vous invite à aller consulter les références que Luc a citées, ou tout simplement lire son livre, puisque tout est décrit en détail dedans. Et malheureusement, on n'a plus le temps de rentrer en détail dans chacun de ces modèles, mais au final, ça fait peut-être partie de la démarche de transformation, de commencer à s'intéresser à ces modèles par soi-même, pour ensuite, entamer le changement. Je te remercie beaucoup, Luc, pour ton temps et de nous avoir partagé tes réflexions et ton expérience. Je vous rappelle donc que tu es le président de Purpose for Good, organisateur de l'événement The Next Gen Enterprise Summit, et que tu as coécrit le livre « L'entreprise nouvelle génération », que je vous recommande vivement. Il est très complet et décrit en détail concrètement plusieurs initiatives innovantes en termes de management et de façon de travailler. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le liker et le noter 5 étoiles sur vos plateformes préférées et le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Travail à la carte sur Instagram ou LinkedIn. Merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode.